Peace and Sport, la paix et le sport, la paix par le sport, c'est un beau credo, Valérie Amand, vous êtes la directrice de la communication de cette association. Le sport, c'est un des credos de Monaco, vous l'utilisez pour la solidarité ?
Oui, exactement. Monaco est vraiment connu dans le monde pour être une place sportive importante et reconnue. Et donc, sous le haut patronage du prince Albert, Peace and Sport a vraiment été créé pour se servir finalement de cette réputation dans le sport et pour s'en servir dans un but qui est aussi très important pour Monaco, qui est effectivement la solidarité. D'ailleurs, on le voit ce matin, même pas à 10h du matin, tous ces gens qui courent, la solidarité et le sport, c'est à Monaco, ça se passe très bien ensemble. Donc Peace and Sport se sert un peu de ces deux leviers-là. Voilà.
Alors, quelle était l'idée de Peace and Sport quand elle a été créée ? Elle a été créée quand d'abord ?
Alors, Peace and Sport a été créée en 2007 par M. Joël Bouzou, qui est lui-même un champion du monde de pentathlon moderne, un médaillé olympique, donc qui connaît très bien le sport, il connaît surtout très bien les valeurs du sport, dans un but de développement personnel, d'épanouissement personnel et puis de structuration. De mental, trouver des repères. Et donc l'idée finalement, c'était de se servir de ces valeurs du sport qui sont vraiment structurantes pour une personnalité et de les mettre au service d'un combat, paradoxalement, qui est le combat de la paix. Donc l'idée, c'est de faire dialoguer deux mondes. Un monde qui est celui du sport, qui peut aider des gens et leur apporter quelque chose dans la vie. Et puis, d'un autre côté, le monde, ce qu'on appellerait le monde de la paix, qui est en fait un monde politique, qui est le monde des organisations internationales, le monde des gouvernements, qui sont confrontés à certains problèmes dans leur pays, de manque de cohésion sociale, de séquelles de conflits armés à gérer, ou d'extrême pauvreté. Confrontés aux problèmes sociaux que ça engendre, ils cherchent des solutions innovantes. Et le sport, c'est une solution qui est facile à mettre en place, qui est pas chère, que tout le monde comprend, qui est un peu un langage universel. Donc on a mis ces deux mondes l'un en face de l'autre pour dialoguer et pour créer des actions concrètes sur le terrain.
Alors, actions concrètes sur le terrain, vos projets, il y en a beaucoup. On va en parler un qui est particulièrement d'actualité, c'est Haïti.
Oui, tout à fait. Haïti, donc suite au tremblement de terre qui a eu lieu en janvier, le comité olympique haïtien, qui était déjà un partenaire de Peace and Sport, est allé voir en fait l'UNICEF très rapidement. L'UNICEF qui gérait les camps de rescapés en Haïti, et face à une situation où vraiment les gamins étaient laissés à eux-mêmes, avaient souvent perdu leur famille, étaient vraiment désœuvrés et risquaient à tout moment de sombrer dans la violence, n'étaient pas du tout pris en charge en termes de traumatisme, parce qu'effectivement, la priorité, c'était l'accès aux soins, c'était la nourriture, c'était le logement, ce qui est extrêmement important, mais ces gamins étaient un peu en déshérence. Donc le comité olympique haïtien, qui avait une grande expérience de développement social en fait en Haïti grâce au sport, a proposé à l'UNICEF de prendre en charge ces gamins, de leur proposer des activités sportives qui permettent un peu de les canaliser et leur permettent d'évacuer le traumatisme. Pour mettre en place des activités sportives, il faut des équipements, il faut des éducateurs, il faut du matériel. Donc ils sont venus vers nous, vers Peace and Sport, pour qu'on les aide à récolter en fait le matériel dont ils avaient besoin.
Ils avaient besoin de quoi ?
Ah, ils avaient besoin de tout, de ballons de foot, de buts, de maillots, de chronomètres, d'éducateurs surtout, qui soient formés, qui puissent encadrer tous ces gens-là, de haies pour faire de l'athlétisme, de raquettes de tennis, de badminton, de tapis pour faire du judo, tout ce qu'il faut, chaque sport ayant d'ailleurs des valeurs différentes, permettant d'avoir des buts, d'atteindre des buts différents.
Et vous leur avez fourni tout ça ?
Et donc on leur a fourni tout ça. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir en fait tous les partenaires de notre plateforme internationale, qui sont les fédérations internationales, qui sont aussi des athlètes, parce qu'on a un pool d'athlètes, une cinquantaine d'athlètes de haut niveau pour nous aider. On est allé voir d'autres comités nationaux olympiques, dont le comité national olympique français par exemple, pour leur dire aidez-nous, mobilisez vos réseaux, aidez-nous à récolter du matériel. Et ça a été plutôt un succès, alors même si on trouve que c'est jamais assez bien sûr, mais on a réussi à récolter 7 tonnes d'équipements qui ont été envoyés en Haïti et qui aujourd'hui permettent à 70 000 enfants de faire du sport tous les jours, de pratiquer du sport tous les jours.
Alors, restons extrêmement matérialistes, 7 tonnes de matériel, ça coûte cher à transporter. Qu'est-ce qui paye ?
Alors, c'est nos partenaires qui nous ont aidés. On a des partenaires privés, mais on a aussi, je reviens à l'exemple du Comité national olympique sportif français qui a pris en charge une partie du matériel. On a eu aussi des partenariats avec des entreprises privées de transport, hein, tout simplement, qui ont vraiment pris en charge tout ça. Donc c'est ça vraiment la solidarité, parce que finalement tout le monde aide à la hauteur de ses moyens. Et finalement on se rend compte que un petit bout, plus un petit bout, plus un petit bout, et ben ça te produit des résultats. Je peux vous donner l'exemple d'un joueur de badminton qui est iranien, qui vit au Danemark, qui avec ses petits bras et allait mobiliser ses petits compagnons au Danemark, d'autres athlètes, a récolté plein de raquettes de badminton, plein de matériel de badminton, qu'il a stocké chez lui. Et qu'il a envoyé, alors par un moyen très très innovant, il a fait une vente aux enchères d'une médaille olympique, d'une médaille pardon, de championnat du monde d'un de ses collègues sur internet, sur un site d'enchères très connu. Voilà. Et grâce à ces fonds, on a envoyé les raquettes.
Revenons à Haïti, votre action, d'accord, mais est-ce qu'on n'en voit pas quand même les limites maintenant? Parce que Haïti, c'est l'urgence aujourd'hui, c'est le choléra, c'est la faim, c'est pas l'endroit pour se reloger, pas de reconstruction. Alors le sport.
Alors c'est évident que le sport est peut-être moins prioritaire effectivement que l'accès aux besoins primaires, qui sont vraiment la nourriture, le logement, l'accès aux soins, surtout en ce moment avec cette épidémie de choléra. Ceci dit, il ne faut pas sous-estimer le rôle du sport dans un contexte comme celui-là, parce que les camps de rescapés en Haïti, c'est le chaos, c'est énormément de promiscuité, c'est... Comme je le disais tout à l'heure, c'est des enfants qui sont vraiment laissés à l'abandon. Si on les laisse sans encadrement, sans activité, la situation peut rapidement devenir explosive. Donc le sport permet justement d'éviter que les choses ne dégénèrent. Et puis on se rend compte que ça permet vraiment à des gamins de retomber sur leurs pieds, de retrouver un peu d'espoir. Ça évite vraiment la situation de dégénérer, ça évite au traumatisme, de s'ancrer vraiment... Dans les esprits. Puis je pense que la reconstruction elle doit arriver relativement vite, même dans les situations d'urgence. Il faut déjà anticiper la suite et la reconstruction, et le sport permet vraiment de le faire.
Ouais. Alors hormis Haïti, vous avez d'autres projets de par le monde, rapidement, dans quels endroits de la planète et lesquels?
Alors on intervient dans la région des Grands Lacs d'Afrique, notamment au Burundi et puis plus récemment en République démocratique du Congo, avec là une action plus ciblée sur les orphelins de guerre et sur les anciens enfants soldats. Qu'on essaie de réintégrer socialement par le sport avec le gouvernement burundais. Ça fonctionne. On est là depuis 3 ans maintenant, donc c'est encore un petit peu tôt pour évaluer le résultat, mais on a déjà des très belles histoires de gamins qui sont assez enfants soldats, qui étaient vraiment un peu perdus, qui étaient à deux doigts de sombrer dans des gangs et qui aujourd'hui, grâce au judo notamment, se sont vraiment restructurés, retrouvés une vie sociale. Ça, c'est un premier travail qu'on fait en Afrique. On travaille également en Côte d'Ivoire. Pareil sur des enfants qui ont vécu la guerre civile et qui sont qui essaient de dans une logique un peu de réconciliation entre les différentes parties en Côte d'Ivoire. On travaille au Timor oriental sur les enfants des rues et sur les enfants qui appartiennent à des gangs violents. Il y en a beaucoup au Timor oriental, donc on essaie de les orienter vers des sports non violents. On travaille également en Colombie, les enfants des favelas, les enfants des rues. On travaille également, on a un petit projet en Israël-Palestine qui est important. On essaie de prendre en charge les enfants des minorités arabes qui vivent dans les zones, ce qu'on appelle de no man's land en Israël.
Bon, on va pas pouvoir tous les citer, mais on voit que vous travaillez dans les coins vraiment très très chauds en fait, difficile.
Oui, tout à fait, on travaille dans les endroits qui sont en reconstruction après des conflits ou qui sont vraiment de l'extrême pauvreté, donc... C'est un projet important.
Alors, dernière question, Valérie Amand. Vous avez un grand forum mercredi. Ça sera autour de quel thème?
Alors, le forum Peace and Sport commence effectivement mercredi. Il existe depuis 4 ans. Le thème, en gros, c'est la collaboration et la pérennité. La collaboration donc, entre le monde du sport et de la paix. On fait se rencontrer les gens, on les forme. L'idée étant de pouvoir derrière mettre en place des projets opérationnels plus facilement. Et puis l'autre axe, c'est vraiment la pérennité, faire en sorte que les programmes qui sont mis en place soient vraiment dans la durée et produisent des effets de long terme.
Merci Valérie Amand, c'était pour Peace and Sport. Alors on a le plaisir de voir quelqu'un qui nous fait l'amitié d'interrompre un peu sa course pour venir nous parler. C'est Alain Forcella. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Vous avez couru pendant combien de kilomètres, Alain?
Ben là, je regarde pas tellement, en fait. Je me base surtout au feeling, quoi.
Oui. Et à votre avis? Parce que moi, je connais le nombre de kilomètres.
Un peu plus de 600,
ouais,
je pense.
Il y en a 612, exactement.
Ouais.
Ça fait combien de temps que vous êtes là?
Eh ben, ça fait 6 jours. 7 jours, ça va faire aujourd'hui, je pense.
Donc, tous les jours, vous venez courir?
Voilà.
Et vous faites combien de kilomètres par jour? Une soixantaine?
Je calcule pas.
Vous calculez
je
pas?
Je calcule pas, non. Parce que... Je viens surtout bon pour la cause. Ça fait 7 ans que je viens maintenant. Je suis un des plus anciens. Donc je garde un peu le principe que j'avais adopté au départ, faire ce qu'on peut et avec les moyens qu'on a, quoi.
Vous venez d'où, Alain ?
Je viens proche de Grenoble, dans l'Isère.
Vous venez systématiquement tous les ans pour venir faire le finish line.
Ça fait 7 ans cette année.
Il y a d'autres courses comme ça dans la même
Non, c'est la seule de 8 jours que je prépare. Je suis plutôt spécialiste de 24 heures.
Vous êtes donc un coureur de fond émérite. Vous entraînez toute l'année parce que vous faire 600 km en une dizaine de jours.
Voilà. Alors je ne sais plus si c'est courir par passion ou la passion de courir. Que, maintenant... Mais de venir ici, c'est vrai que j'en prends. Bon, en plus, je me suis créé une grande famille avec l'organisation. Je me sens bien. Les coureurs sont sympas. Je me suis bien intégré. Donc.
Ça fait combien de temps que vous la faites ?
7 ans.
7 ans ?
7 ans.
Et vous venez systématiquement ? Voilà. Vous prenez des vacances pour ça ?
Voilà, je prends 15 jours de vacances.
Quel est votre métier ?
Je suis technicien de maintenance chez Caterpillar à Grenoble.
D'accord. Et donc, systématiquement, vous venez et vous courez ?
Voilà.
Alors, pourquoi avoir choisi No Finish Line ? Comment d'abord vous l'avez connu ?
Je l'ai connu par le site internet. Elle existe depuis 11 ans, mais était réservée plus ou moins au Monégasque. Mm-hmm. En 2003, il y a un coureur qui a accédé au circuit et qui était tout seul. Depuis 2003, j'ai regardé le site, j'ai vu que cette course existait, j'ai eu l'idée de me lancer le défi de battre ce coureur qui était venu d'ailleurs. Et cette première année m'a porté chance puisque je l'ai battu. Et depuis, je reviens systématiquement parce que j'avais trouvé qu'il y avait une bonne ambiance.
Donc c'est vraiment un challenge pour vous, quoi.
Voilà, hein, je me fais plaisir, fais au feeling, quoi, en essayant de faire le mieux possible, parce que sachant qu'il y a une recette derrière qui tombe, et donc on s'engage autant qu'on peut, quoi.
Donc finalement, le pourquoi il est là, c'est que vous savez aussi que vous œuvrez pour la solidarité.
Voilà, c'est ce qui motive. On peut souffrir, sachant qu'il y en a d'autres qui souffrent et qu'on doit les aider.
S'il n'y avait pas la solidarité, vous seriez quand même venu ou pas ?
Oui, mais je ne traite...
Mais moins motivé. Hein.
Voilà, moins motivé. Parce que j'aime pas les courses qui traitent de l'argent, justement. Alors, je sélectionne assez celle-ci.
Si vous aviez encore à courir, vous courriez encore combien de temps ? Je ne sais pas si vous allez retourner sur le circuit ou pas.
Oui,
c'est pas fini alors.
Non, jusqu'à maintenant, j'ai toujours progressé depuis que je viens. Petit à petit, bon, je grignote, mais là, cette année, j'ai pas mal eu d'arrêts, quoi, donc de contacts. Aussi, bon, donc j'accepte volontiers et je joue le jeu, quoi. Je dis, je pourrais pas faire ce que je voulais, battre mes 741, donc je ferai le mieux que je peux.
Et là, vous vous sentez comment ?
Voilà.
Ça va ?
Je me sens bien. Donc, je veux rester bien pour revenir l'année prochaine.
Formidable. Bon courage. Défi. Bon courage à vous. On va se retrouver dans quelques instants avec Carole
Meyer.